Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour à toutes et à tous, suite et fin de notre cycle sur nos amis les crapauds, grenouilles, tritons et salamandres. Bonjour Muriel.
Bonjour Ludovic, bonjour à tous. On a découvert dans les émissions précédentes que les croyances et les préjugés autour des amphibiens étaient nombreux. On sait maintenant que le crapaud ne donne pas de boutons, n'est-ce pas Ludovic ?
Absolument.
Que la salamandre ne possède pas le secret du feu, mais que le printemps est pour eux une saison à risque pour perpétuer l'espèce. Les routes peuvent être dramatiques pour eux, mais de nombreux autres dangers les menacent.
Alors c'est étonnant, oui, c'est le groupe d'animaux le plus menacé au monde. Pourquoi ?
Bah d'abord par leur biologie. On a vu que les amphibiens ont la peau nue. Et donc, ils sont particulièrement sensibles puisque, normalement, les poils, les plumes ou les écailles constituent un peu une barrière, une façon de se protéger. Eux ont la particularité de ne rien avoir sur la peau, car ils utilisent cette peau pour respirer par les pores, en complément des poumons, que ce soit à l'air libre ou sous l'eau.
Alors c'est pour ça qu'ils sont gluants.
Ils sont pas vraiment gluants. Mais
un
pour
petit
que
peu quand même.
Ouais, pour que ça fonctionne en fait, la peau doit être toujours humide. Sinon il y a les pores se referment, il y a des risques d'asphyxie. Donc ils sont pas vraiment gluants, plutôt glissants. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop les manipuler parce qu'avec nos mains sèches, on leur abîme la peau en fait. Et cette peau nue les rend très sensibles aux pollutions de l'air, de l'eau ou de la terre qui peut pénétrer dans l'organisme plus facilement parce qu'il y a pas de barrière.
Quels impacts peuvent avoir les pollutions pour eux ?
Alors, ça dépend du milieu et du stade concerné. Comme chez les humains, les bébés, donc les têtards et les jeunes, sont les plus fragiles. Par exemple, les pluies acides sont responsables de l'échec de la reproduction du crapaud calamite en Grande-Bretagne, car l'acidité peut altérer le développement des embryons. C'est une conséquence directe, mais indirecte aussi, puisque l'acidification des milieux est susceptible d'augmenter en fait l'effet toxique d'autres polluants comme l'aluminium.
On parle aussi souvent des polluants chimiques.
Ouais, alors là, la liste est longue. Il y a les PCB qui sont utilisés par les industries du papier phytosanitaire qui altèrent le développement des têtards. Il y a le plomb qui est répandu dans le milieu par la chasse qui peut entraîner des malformations. Les phtalates présents dans les plastiques génèrent des changements de sexe en perturbant le système hormonal. Les insecticides, même réputés sans danger pour la santé humaine, peuvent s'avérer hautement toxiques puisqu'ils modifient le système nerveux. À côté de ça, il y a certains herbicides qui contiennent des additifs appelés agents surfactants qui, par leur interaction avec le système respiratoire, en fait, peut augmenter la toxicité de plusieurs centaines de fois. Et puis, il y a les polluants d'origine agricole qui, eux, vont diminuer la qualité de l'eau et peuvent faire disparaître plusieurs espèces.
Eh bien, la liste est longue. Surtout qu'on peut rajouter, on l'a vu la semaine dernière, la circulation routière, les captures illégales et les problèmes liés aux espèces exotiques.
Voilà. En gardant à l'esprit que la première cause de disparition des amphibiens reste la disparition des milieux humides.
C'est pourquoi ces milieux sont protégés.
Voilà. Et aujourd'hui, tous les amphibiens aussi sont protégés en France. Alors, sauf les espèces d'origine exotique comme la grenouille taureau ou le xénope, mais qui sont pas présents en Lozère. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que la grenouille verte, la grenouille rousse, le crapaud commun, même s'ils nous paraissent par endroits encore assez présents, nombreux, voilà.
C'est vrai que c'est pas un animal, on se dit, il est en disparition.
Parce que quand ils sont présents, on les voit parce qu'ils arrivent tout d'un coup en masse comme ça au moment des pluies. C'est ce qui aussi leur a valu la mauvaise réputation. Enfin, on se disait que c'était une pullulation d'animaux, alors que s'ils sont nombreux, c'est qu'ils ont une place de prédateur dans l'écosystème. Donc ils s'adaptent à leurs ressources alimentaires. Donc ils peuvent pas être en surnombre en fait. Mais il faut donc garder à l'esprit que leur pêche en fait est soumise à des arrêtés préfectoraux. On peut pas comme ça aller à la pêche à la grenouille. C'est pas une pêche qui est autorisée. C'est vraiment soumis à des dérogations. Donc faut se renseigner avant d'aller à la pêche aux grenouilles. Et garder à l'esprit qu'on n'est pas obligé de manger des cuisses de grenouille d'ailleurs.
tu disais qu'ils tiennent une place très importante dans l'équilibre des écosystèmes par leur place dans la chaîne alimentaire ?
Oui, c'est ça. En fait, ils se nourrissent d'énormément d'invertébrés, insectes, et larves. Donc notamment, ils ont un rôle régulateur pour les larves de moustiques. Si vous construisez un bassin chez vous, on peut avoir peur qu'il y ait plein de moustiques, d'être envahi de moustiques. Bah, la meilleure solution contre les moustiques, c'est les grenouilles, ou les crapauds, ou les tritons, les salamandres, puisqu'ils vont manger dans le milieu aquatique les larves, et à l'extérieur, les adultes. Donc ils ont un rôle régulateur des insectes très très important. Mais ils nourrissent aussi beaucoup, beaucoup d'animaux, que ce soit à l'état d'œufs, de têtards ou d'adultes. Donc ils nourrissent les poissons, les oiseaux, les écrevisses, les mammifères. Donc en fait, ils tiennent un rôle super important dans deux milieux.
Tu donnes une mauvaise idée, Muriel, parce que ça va donner l'idée à certains de capturer une grenouille pour l'amener dans un petit plan d'eau chez eux. Mais bon, au moment de la reproduction, il va y avoir des soucis.
Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est une dérive qu'il peut y avoir. Il y a deux aspects pour ça. D'abord, ils sont protégés strictement, c'est-à-dire que légalement, on n'a pas le droit de les capturer, de les déplacer, de les tuer à n'importe quel stade de leur vie. Mais c'est aussi du bon sens, c'est-à-dire que si vous créez un petit bassin et que vous avez envie d'avoir des amphibiens chez vous parce que vous êtes un amoureux des amphibiens ou parce que vous avez envie de mieux les connaître, ben en fait, ça sert à rien d'aller en chercher autre part parce que ça se trouve vous prendrez la mauvaise espèce qui sera pas adaptée à chez vous. Et si votre milieu est accueillant, ils viendront tout seuls. C'est des animaux qui sont en manque d'habitat parce qu'on détruit leur milieu naturel. Donc si on en crée des nouveaux qui sont dans le coin, que c'est adapté, ils viendront tout seuls. Donc vraiment, la meilleure chose à faire là, pour le coup, c'est de rien faire.
Et d'attendre.
Voilà.
Ils sont donc indispensables finalement à l'équilibre de leurs deux milieux de vie, le milieu aquatique et le milieu terrestre.
Voilà, c'est pour ça qu'ils sont vraiment très très importants. Et puis, vu qu'il y a une très très grande diversité chez les amphibiens, ils constituent un réservoir biologique super intéressant. On fait des découvertes assez phénoménales sur le monde animal, sur la biologie, l'écologie, le fonctionnement des écosystèmes, en étudiant les amphibiens. On parlait aussi pendant la première émission des intérêts pharmaceutiques, c'est vraiment énorme parce que c'est des espèces qu'on connaît peu finalement et on se rend compte de leur intérêt quand on commence à les étudier, quand on commence à voir comment ils fonctionnent. Et là, il y a le cas d'un crapaud en Amazonie qui a été étudié en laboratoire et quand on a trouvé le remède contre l'ulcère qu'il représentait, on a voulu retourner en chercher dans le milieu naturel, l'espèce avait disparu parce que son milieu naturel avait été détruit. Voilà. Donc, ce qui montre bien que, bah oui, peut-être que pour l'instant on voit pas l'intérêt, mais que de toute façon c'est un réservoir très très important. Alors après, il y a aussi le fait que c'est des animaux et que qui étaient là bien avant nous, c'est aussi les premiers animaux à être sortis de l'eau dans l'histoire de l'évolution. Donc c'est un peu grâce à eux. Si on est là aujourd'hui. Voilà, pourquoi ne pas les protéger, juste pour essayer de vivre en bonne harmonie. Et puis finalement, quand je vous invite à prendre un crapaud dans votre main et à le regarder droit dans les yeux, on a l'impression d'avoir un petit dragon. Non, mais ça a quelque chose de préhistorique qui est assez incroyable.
Mais c'est trop gluant. concrètement, comment on peut les protéger aujourd'hui ?
Eh ben, il y a plusieurs actions à grande échelle ou à petite échelle. Donc, la première chose, c'est le maintien des zones humides. Hein. C'est le lien avec notre journée des zones humides de février. Faire des efforts par rapport à la pollution, que ce soit au niveau industriel, agricole, mais aussi domestique. La France est le premier consommateur de pesticides pour le jardinage au niveau des particuliers. Donc là, on a vraiment un effort à faire. On n'a pas besoin de dépendre des quantités astronomiques sur un mètre carré. Il y a d'autres solutions qui existent. D'ailleurs, les crapauds et les grenouilles peuvent être des très bons auxiliaires du jardinier parce qu'ils viennent manger les limaces, notamment. Il y a la protection lors des migrations, on en parlait autour des routes. Et puis, garder à l'esprit qu'il ne faut pas les capturer, qu'on peut faire une mare dans son jardin. Et puis, continuer la sensibilisation. Je te mets au défi de prendre un crapaud bientôt dans ta main pour te rendre compte à quel point c'est chouette.
Allez, j'allais construire une mare. Merci Muriel.
Merci, au revoir.
Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.